La radiodiffusion française vous prie d'écouter Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres par Pierre Cipriot. 48e émission, Où va l'ethnographie? À l'occasion de la publication du livre de Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, avec l'auteur Claude Lévi-Strauss, Jean Guéhenot et Michel Léris.
Claude Lévi-Strauss, directeur à l'École pratique des hautes études, vient de publier aux éditions Plon « Triste Tropique » dans la collection Terre humaine que dirige Jean Mallory. « Triste Tropique », c'est un bilan de l'ethnographie contemporaine, pensé à l'échelle mondiale. C'est aussi l'itinéraire spirituel d'un écrivain que son métier oblige à décomposer pour reconnaître dans chaque société une forme de vie inimitable, ce qui est la vocation de l'ethnographe, et qui, sur le terrain, s'aperçoit que sur notre planète, rassemblée, amassée par l'excitante entreprise du progrès et l'ubiquité de la vitesse, toutes les ignorances et toutes les erreurs de la Terre ont été multipliées les unes par les autres. « Soyez parfaits », disait Montesquieu s'adressant à tous les pays du monde, « soyez parfaits en restant vous-même ».« Devenez parfaits », semblent dire nos sociologues et nos technologues modernes, en passant par nos mains, comme si de nos erreurs les autres pouvaient faire vérité. Le prieur d'Inséré nous dit que Triste Tropique renoue avec la tradition du voyage philosophique façon XVIIe et XVIIIe siècle. En fait, Montaigne ou Montesquieu dans leur voyage n'étaient pas assombris par ces reproches constants que Claude Lévi-Strauss fait à lui-même et à sa civilisation. Triste Tropique, c'est la tristesse des sociétés primitives totalement démunies, c'est aussi l'ombre de ce défi au bonheur qui marque désormais la civilisation occidentale, défi au bonheur qui colle aux voyageurs partis pour s'abstraire et même en lointain pays ne peut congédier l'image de nos drames, de nos guerres, de nos erreurs qui par leur nature explosive se sont étendues à toute la terre. On croyait autrefois que le malheur c'était le tribut du temps, un mauvais moment à passer et qui absorbé par l'après laissait seulement une trace dans le souvenir pour se menuiser comme une cicatrice. Claude Lévi-Strauss nous convainc que le mal peut être l'occasion de tourbillonnantes gravitations. Les îles de la félicité, les continents perdus, seuls un disparate entre ces mondes où nous essayons vainement de nous dépayser et le nôtre, nous y fait croire. Et encore, il y faut une prétention pittoresque de savant montage et un artifice totalement séparé de la nature qui rendent méprisables ces formes trop naïves ou trop habiles de la littérature de voyage et du cinémascope, appelant à l'aide toute la technique moderne pour mieux nous mentir. Écrit avec une aisance de pensée et d'expression éblouissante, l'ouvrage de Claude Lévi-Strauss doit ses qualités à la rigueur de la chose vue. Comme on l'a fait remarquer, le récit est libre, coupé de poèmes en prose, de réflexions politiques, de récits d'aventure, de confrontations surprenantes, mais constamment cette facilité est surmontée par l'énergie de l'auteur, qui n'affirme un instant les plus personnelles réactions que pour se réintégrer et retourner aussitôt dans le mouvement inquiétant de l'univers. Dans ce parcours qui va toujours devant, sans doute des pauses sont ménagées quand Lévi-Strauss se fait la aide des populations les plus primitives du globe, les Bororo, les Nambikvara. Mais là encore, le dessin se poursuit car ces peuples reculés fournissent le modèle théorique de toute société humaine, comme si l'espace qui les rejette loin de nous avait même pouvoir que cette amplification du souvenir qui donne du vaste au phénomène de l'enfance et de l'histoire d'un homme. Il faut insister aussi sur le fait que Triste Tropique a été écrit en un temps où la face du monde se transforme et apparaît chaque jour méconnaissable, où la position de l'Occident dans l'univers est remise en question, où il n'y a plus de peuple élu, de classe inférieure, où le blanc se heurte à toutes les autres civilisations survivantes, l'Inde, la Chine, l'Islam, les vieilles sociétés d'Amérique du Sud, en un temps aussi où la suppression des distances élargit notre vision et fait progresser l'idée de la solidarité humaine. Aussi, Claude Lévi-Strauss ouvre sans cesse l'intervalle qui sépare le monde d'il y a 30 ans et celui qui s'accomplit, comme un vide que notre action doit remplir. Et où la forme de notre destin va prendre corps, peu à peu, pour devenir un jour irrévocable. Écrit en quelque sorte sur deux rythmes, deux tempos, cet ouvrage est partagé entre le regret de cette évolution éperdue qui nous empêche de rien fixer, de rien retenir, et le sursaut de conscience qu'il va falloir pour coïncider avec ce monde qui s'est mis à bouger sous nos pas. Un peu plus de compréhension de ce qui arrive semble être la première exigence de l'ethnographe. Car il est évident qu'être livré sans le savoir à un tel devenir, c'est être à sa merci. Situé dans l'axe d'un mouvement puissant, Il n'est pas indifférent, même si ce devenir nous dépasse, de savoir ici et maintenant quel rôle nous est assigné. Cette insertion suffit à donner une valeur absolue à tout ce que nous pourrons chercher à réaliser sur l'étroite bordure du temps où il nous est donné de vivre. S'agit-il pour autant de se perdre, de s'immerger dans quelque forme impersonnelle ? Non, et Triste Tropique nous montre suffisamment que la plus large participation au monde, comme il va, peut donner à notre vie la forme la plus profonde, la plus secrète et la plus personnelle. Monde en transition, disions-nous ? Encore faut-il, si l'on veut vivre en synchronisme avec le cours universel des choses et ne faire plus qu'un avec lui, tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire s'approcher par la sympathie le plus près possible des pays les plus reculés du globe, ceux où l'homme est encore retenu dans les liens de la nature, et à l'extrémité de la chaîne, confronter ces pays avec les sociétés où l'homme commence à comprendre la liberté de l'esprit et à l'apprécier. Entre ces sociétés délaissées qui vivent pour quelques dizaines d'années encore dans une sorte d'inconscience, facile et heureuse, et celles qui agissent, car le progrès semble le champ même de leur exercice, il y a toutes les sociétés qui attendent et espèrent. L'Inde, par exemple, sur qui Lévi-Strauss écrit des pages étonnamment percutantes. L'Inde qui semble mener une existence en sens inverse du cours naturel, puisque le progrès qu'on lui a imposé est venu la surprendre et menace sa structure sociale sans qu'elle participe vraiment aux acquisitions de ce progrès. Bernard Véron va lire un extrait de Triste Tropique, page où Claude Lévi-Strauss nous parle précisément de l'Inde.
Demra est un hameau presque lacustre, tant est précaire le réseau de talus émergés où les huttes se groupent dans les bosquets. J'y ai vu la population, depuis les enfants en bas âge, occupée dès l'aube à tisser à la main ces voiles de mousseline qui firent jadis la célébrité de Dhaka. Un peu plus loin, à Langalboun, une région entière se consacre à la fabrication de boutons de nacre du genre utilisé dans notre lingerie masculine. Une caste de bateliers, les Bidyaya ou Badia, qui vivent en permanence dans la cabine en paille de leurs santons, récoltent et vendent les moules fluviales destinées à fournir la nacre. Les tas de coquilles boueuses donnent au hameau l'apparence de placères. Après avoir été décapées dans un bain acide, les coquilles sont brisées au marteau en fragments, arrondies ensuite sur une meule à main. Puis chaque disque est placé sur un support pour être façonné à l'aide d'un bout de lime ébréché armant une vrille de bois manœuvrée à l'archet. Un instrument analogue mais pointu sert enfin à percer quatre trous. Les enfants cousent les boutons terminés par douzaines sur des cartes recouvertes de clinquants comme les offrent nos merceries de province. Avant les grandes transformations politiques qui ont résulté de l'indépendance des pays asiatiques, cette industrie modeste qui approvisionnait le marché indien et les îles du Pacifique donnait la subsistance aux travailleurs, malgré l'exploitation dont ils étaient et continuent d'être l'objet de la part de cette classe d'usuriers et d'intermédiaires, les Mahayanes, qui avancent la matière première et les produits de transformation. Maintenant, des populations médiévales sont précipitées en plein air manufacturière et jetées en pâture au marché mondial. Du point de départ jusqu'au point d'arrivée, elles vivent sous un régime d'aliénation. La matière première leur est étrangère, complètement pour les tisserands de Demra, qui emploient des filets importés d'Angleterre ou d'Italie, partiellement pour les façonniers de Langalboun, dont les coquillages ont une origine locale, mais non les produits chimiques, les cartons et les feuilles métalliques indispensables à leur industrie. Et partout, la production est conçue au gré des affaires de l'étranger, ces malheureux ayant à peine les moyens de se vêtir, moins encore de se boutonner. Sous les campagnes verdoyantes et les canaux paisibles bordés de chaumières, le visage hideux de la fabrique apparaît en filigrane, comme si l'évolution historique et économique avait réussi à fixer et à superposer ses phases les plus tragiques aux dépens de ses pitoyables victimes. Carences et épidémies médiévales, exploitation forcenée comme au début de l'ère industrielle, chômage et spéculation du capitalisme moderne. Le 14e, le 18e et le 20e siècle se sont ici donné rendez-vous pour tourner en dérision l'idylle dont la nature tropicale entretient le décor.
La question alors se pose, cette mort des sociétés primitives va-t-elle en terminant leur vie les réaliser vraiment? Les sociologues de jadis le croyaient, puisque pour eux toute société était destinée à entrer dans le sein de la civilisation occidentale, souveraine et modèle. Mais Claude Lévi-Strauss porte aussi sur cette intégration le regard extérieur des persans de Montesquieu. Il se refuse d'être l'avocat aveugle des peuples élus, sans doute plein de bon sens et de courage, mais qui, entraînés par la civilisation technicienne, voient le monde en général avec des yeux un peu trop prosaïques et un sens immédiatement pratique, responsable de la destruction presque complète des civilisations précolombiennes, de la disparition des tribus indiennes de l'Amérique du Nord et du Sud et de la désagrégation de l'Asie. Quelles sont alors les solutions préconisées par Claude Lévi-Strauss ? Je ne voudrais pas préjuger des réponses qu'il nous fera lui-même tout à l'heure en compagnie de Jean Guénaud et Michel Léris. Insistons seulement pour un instant sur le thème et dont il fait grand cas et qui est le thème de la coalition des civilisations, c'est-à-dire l'intensification, l'accroissement des contacts de quelque nature qu'ils soient. Et il cite en exemple l'Europe du début de la Renaissance qui était le lieu de rencontre des influences les plus diverses. En ces conditions, malheur à celui qui est seul. Le progrès n'existe, ou moins n'a de sens, que s'il ne supprime pas la diversité. Toutes les oppositions remettent l'évolution en marche, et l'humanité actuelle doit vivre des épreuves déchirantes, comme celle que nous propose Triste Tropique, si elle veut progresser. Car c'est dans ces dédoublements, où tour à tour la nature et l'esprit sont la loi du monde, où nous nous distinguons nous-mêmes comme objet et sujet à l'intérieur de notre façon de vivre, où nous nous affranchissons de tous les liens qui nous enferment dans nos droits et nos conquêtes, que nous nous approchons le plus des principes qui mènent le monde. L'ethnographe, selon Claude Lévi-Strauss, on pourrait le définir comme l'homme qui contemple toutes les civilisations et qui se refuse d'être le complice d'aucune civilisation. Jean Guénaud, j'aimerais tout d'abord vous laisser la parole, parce que dans votre livre « La France et les Noirs », vous faites allusion aux enquêtes ethnographiques de Griaul, et tout en attachant une importance à ces textes, à ces légendes des Dogons. Néanmoins, vous craignez, vous semblez craindre que ces légendes qui nous sont racontées, qui nous sont détaillées par les ethnographes, puissent mettre en déroute notre conscience d'occidental. Pourquoi tant de conscience, semblez-vous dire, mise au service de l'inconscience ? J'aimerais que vous nous disiez si, en lisant le livre de Claude Lévi-Strauss, vous avez eu le sentiment de cette même déroute de l'intelligence et de la culture occidentale en face de cet envahissement par des cultures étrangères, tel que l'ethnographe peut le souhaiter.
Assurément pas. Et j'ai lu le livre de Claude Lévi-Strauss avec une véritable passion. C'est que je n'ai pas cessé de sentir dans ce livre précisément un désir de l'ethnographe de rejoindre constamment le problème qui, à mon sens, est le problème des problèmes, c'est à savoir... Qu'est-ce que la nature humaine ? S'il m'est arrivé quelquefois de paraître me méfier des ethnographes, ce n'a jamais été que dans la mesure où ils pouvaient n'être intéressés que par le fait tout court devant lequel une certaine aventure les conduisait. Mais je pense bien avoir exprimé tout au contraire, et dans ce petit livre même que vous citiez tout à l'heure, mon regret de n'être pas moi-même un ethnographe, étant bien entendu que, précisément, je pratiquerai l'ethnographie dans l'esprit que je définissais tout à l'heure, avec le désir de dépasser la description des faits pour retrouver, à travers ces faits, des constantes même de l'humanité.
Et là, je crois qu'il faudrait faire allusion à ce développement, à ce dépassement de l'ethnographie par elle-même depuis quelques années. Ça fait partie d'études précises et profondes sur des sociétés particulières. L'ethnographie, me semble-t-il, et là, j'aurais posé la question à Claude Lévi-Strauss, manifeste maintenant un souci de comprendre les différents aspects du comportement humain dans leur généralité, constamment de confronter le primitif et le civilisé, au point que, pour un ethnographe, je crois... qu'il n'y a plus beaucoup de différence entre un primitif et un civilisé.
Mais c'est que sous le nom d'ethnographie, il y a en vérité des préoccupations et des spéculations qui sont très anciennes. Il me semble qu'à partir du moment où les hommes ont commencé par réfléchir sur eux-mêmes en invoquant l'expérience de civilisations qui n'étaient pas les leurs, c'est-à-dire dans notre formation classique elle-même, par cette espèce de fécondation de la réflexion au moyen de l'exemple des anciens Grecs et des anciens Romains, en un sens, on faisait de l'ethnographie. Et puis, ensuite, il s'est produit que les grands voyages de découverte ont rendu, en un sens, la tâche plus facile, parce qu'ils nous révélaient des sociétés qui étaient d'une part très petites, et de l'autre, extraordinairement différente de nous. Et comme ces sociétés étaient au surplus compromises dans leur existence par le fait même de la colonisation et le développement des grands voyages, il était donc urgent pour l'ethnographe de s'attaquer à l'étude de ces sociétés. Mais après tout, ça n'était qu'une étape ou qu'un moment dans notre effort. Et puisqu'hélas, nous voyons les sociétés que nous appelons primitives disparaître à une vitesse effroyablement rapide, je ne pense pas que pour autant ce type de réflexion qui est fondée sur la comparaison de sociétés de genres de vie très différents les uns des autres doivent disparaître, et nous pouvons le faire peut-être moins facilement, mais néanmoins, nous pouvons et nous devons essayer de le faire à propos de sociétés plus voisines de la nôtre.
Maintenant, il me semble que pour l'ethnographe, par le fait même, il se trouve dans une situation assez difficile. Enfin, il est en quelque sorte débordé par des disciplines qui s'appliquaient à étudier les questions sur lesquelles maintenant son attention porte. Enfin, il y a un phénomène, il me semble que l'ethnographie, qui était l'étude des sociétés primitives, maintenant est devenue l'étude de l'homme. Donc l'ethnographe semble chasser sur un terrain qui était autrefois celui du sociologue, celui de l'économiste, celui de l'historien, Michel Léris.
Je pense qu'il faut absolument que l'ethnographe élargisse le plus possible son cercle d'investigation.
Mais par le fait même, il perd son isolement.
Il le perdra, tant pis. Je irais même jusqu'à souhaiter que des ethnographes apparaissent dans d'autres civilisations que les nôtres et étudient notre propre civilisation. Si nous devons arriver à la définition d'une nature humaine, je pense que ce n'est que comme cela que nous pouvons y arriver. Je souhaite vivement que cesse cette espèce de division actuelle de population en population que j'appellerai ethnographiante et population que j'appellerai ethnographiée.
Oui, nous sommes tous, nous méritons tous d'être ethnographiés.
Bien sûr.
Mais est-ce que vous croyez que le point de départ, contrairement, enfin, il me semble que dans votre œuvre, vous-même, qui tourne tout entier autour de votre expérience individuelle, vous vous conduisez comme un ethnographe. Et vous êtes l'ethnographe de vous, comme l'ethnographe essaye d'être le psychologue des autres, si je puis dire.
Je pense en effet que j'ai essayé de m'appliquer à moi-même les méthodes qu'on m'avait enseignées à appliquer en ethnographie. Ce que je puis dire...
Vous vous regardez avec la même curiosité et la même surprise, quelquefois.
Et j'oserais dire le même mélange de sympathie et d'antipathie.
C'est cela, oui.
Oui, mais c'est qu'il s'agit toujours, partant d'une expérience humaine quelconque, et les sociétés primitives ne sont qu'une forme privilégiée de cette expérience quelconque, d'arriver à formuler des conditions qui soient générales et valables pour l'homme. Et si nous lisons Michel Léris avec passion, bien qu'il parle de lui, c'est que justement, il parle de l'homme, de même que l'ethnographe parle de l'homme quand il étudie les Bororo ou les Nambikwara ou les Dogons.
Mais ne craignez-vous pas que cette définition de l'ethnographie la limite à un aspect panoramique, c'est-à-dire à un aspect seulement éducatif, révélateur de nous-mêmes, ou révélateur des autres, ou révélateur de nous-mêmes en fonction des autres, par l'éveil de certaines couches de conscience. Enfin, nous reviendrions ainsi à une sorte de vision du monde telle que celle qui apparaît dans les œuvres de Jung ou de Freud. Mais n'y a-t-il pas une autre application de l'ethnographie qui, celle-là, serait un peu plus pratique, plus technique, dans la mesure, par exemple, où l'ethnographe a à résoudre des problèmes de nationalisme répondant à des oppositions techniques, dans la mesure où il a posé des questions sur l'évolution d'une société en fonction d'un fond technique ou d'un fond économique?
L'ethnographe, me semble-t-il, est d'abord enfin l'avocat d'office, si je puis dire, des populations indigènes.
Ça, je crois qu'il n'y a aucune espèce de doute là-dessus. Et dans la mesure même où il faut penser, comme Lévi-Strauss, que l'ethnographe est quelqu'un dont la tâche essentielle est de revivre comme une expérience personnelle la vie des sociétés qu'il étudie. Revivre comme une expérience personnelle la vie des sociétés qu'il étudie, ça l'amène nécessairement à adhérer aux aspirations et aux revendications de ces sociétés.
Et c'est dans cette mesure-là que nous pouvons être utiles, puisque précisément le développement actuel de la civilisation mécanique se fait du point de vue exclusif des sociétés qui ont engendré cette civilisation, et dans un état d'aveuglement total vis-à-vis des conséquences qu'il peut avoir pour les peuples auxquels nous l'imposons du dehors.
Et c'est d'autre part la condition même de cette identification de l'ethnographe et de la race qu'il étudie, en fait, de la société qu'il étudie, que de toute évidence, il fait son vrai métier. Il entre par toute sa raison, sans doute, mais enfin, il entre par toute sa vie, si je puis dire, dans les secrets même de cette société qu'il étudie.
Enfin, du moins, nous essayons, parce que ça n'est pas toujours aussi facile.
Ça n'est pas toujours aussi simple.
J'aimerais que vous citiez, Claude Lévi-Strauss, quelques-uns des exemples de ces échecs de certaines sociétés qui, précisément, ont méconnu le développement intérieur, le développement progressif que semble souhaiter l'ethnographe quand il étudie l'évolution d'une société. Je pense à ces pages que vous écrivez sur les Indes.
Hélas, je crois que nous n'avons qu'à nous promener à travers le monde pour contempler le spectacle des désastres qu'un développement irraisonné et acharné de la civilisation mécanique qui a créé un peu partout. Et si j'ai appelé mon livre « Triste tropique », c'est précisément parce qu'à l'heure actuelle, les tropiques tout entiers nous offrent un visage de désolation dont nous sommes hélas les premiers et les principaux responsables.
Et alors cela nous amènerait à conclure, d'après votre livre, qu'il faut respecter un certain état de nature, qu'il faut respecter certaines conformités dans la structure des sociétés. Et j'aimerais qu'entre vous et Jean Guénaud s'établisse précisément un dialogue, parce que au fond c'est un peu l'idée que Jean-Jacques Rousseau avait défendue de rechercher dans la société primitive l'exemple non pas d'une société idéale, mais d'une société respectable et d'une société qu'il faut essayer de maintenir parce que elle répond à certaines conditions harmonieuses de développement qu'on ne peut pas fausser impunément.
Mais je voudrais reprendre un mot dans ce que vous venez de dire, parce que vous avez eu l'air, me semble-t-il, d'impliquer une opposition entre un état de nature et un état de société, comme si Rousseau avait glorifié le premier aux dépens du second. Or, je crois au contraire qu'il y a toujours chez Rousseau une extraordinaire sagesse, qu'il sait d'abord que l'homme ne peut vivre qu'en société, et d'autre part qu'il accepte une certaine dose de progrès, si je puis dire, de progrès moyen, comme étant absolument indispensable à la réalisation de la nature humaine. Mais ce contre quoi il nous met en garde, et son message, me semble-t-il, reste toujours valable, c'est contre une espèce de passion acharnée, immodérée du progrès pour le progrès, d'un progrès qui ne serait pas jugé par l'homme de l'extérieur et d'un point de vue de sagesse.
Cela est son souci même, enfin, ce qui frappe, c'est l'opposition qu'il fait d'un homme naturel et d'un homme policé, étant bien entendu que cet homme naturel est l'homme déjà d'une certaine société. D'une certaine société, d'une société qui lui paraît s'arrêter à peu près à l'époque, enfin, ce que nous appellerions, nous, je crois, l'époque néolithique, il me semble.
Je crois d'ailleurs, Rousseau est le premier qui ait prononcé le mot de révolution pour le néolithique, qui est actuellement couramment employé par les ethnologues, c'est-à-dire, en somme, le moment où l'homme est arrivé de se protéger contre la faim, contre le froid, contre la misère, mais où il continue à mener une vie simple.
C'est cela. Et par contre, il est aussi heurté qu'il est possible par la société, par les sociétés qui ont suivi. Et c'est peut-être ce qui explique l'erreur qu'on fait d'ordinaire, je crois, dans l'interprétation de Rousseau, c'est que il décrit d'une façon si violente et les sociétés dans la seconde partie du discours sur l'inégalité, que alors on est trop tenté d'opposer à cette seconde partie la première partie comme une célébration de la nature. Il n'y a pas du tout de célébration systématique d'un état de nature, il y a seulement la célébration d'un homme naturel dont il a en quelque sorte la nostalgie.
Et je crois bien qu'il a l'horreur en même temps de l'homme civilisé. Et ne croyez-vous pas qu'au fond de tout ethnographe il y a cette disposition à fuir son propre pays?
C'est le fond même.
Je crois que dans la vocation personnelle de beaucoup d'ethnographes, il y a à l'origine une espèce d'incompatibilité d'humeur entre lui-même et le groupe social où il est né, et précisément un effort pour arriver à le mieux comprendre, pour pouvoir d'ailleurs mieux l'accepter, mieux y prendre sa place, et que le rôle de son séjour dans des sociétés extrêmement différentes de la sienne propre, c'est précisément d'acquérir vis-à-vis de son propre groupe cet état d'objectivité qu'il est impossible d'obtenir quand on n'en est jamais sorti.
C'est ça.
Mais Rousseau pouvait se laisser fasciner par ses lectures, et Jean Guénaud, vous disiez tout à l'heure que ces visions de Rousseau sur la société naturelle sont des poèmes, précisément parce qu'il n'a pas pu voyager. De votre côté, Lévi-Strauss, vous nous dites maintenant que dans la mesure même où on voyage, on ne trouve plus de société primitive, c'est un rêve manqué.
Enfin, on en trouve encore quelques-unes, ça n'est pas aussi facile qu'on le pense généralement. Mais n'oubliez pas que, enfin, Rousseau ne s'est pas, je ne peux pas laisser dire cela, ne s'est pas laissé fasciner par ses lectures. D'abord, parce que, bien qu'il n'ait jamais voyagé, il avait un sens très aiguisé de la vie et des réalités paysannes. Et qu'après tout, dans l'Europe du XVIIIe siècle, les genres de vie paysans n'étaient pas tellement différents de ceux que nous pouvons trouver aujourd'hui dans les populations très lointaines. Il avait donc, en un sens, une expérience ethnographique. Et quand nous le lisons aujourd'hui, nous qui avons vu les populations, même dans la mesure où elles existent encore, au sujet desquelles il a lu, eh bien, je dois dire que nous sommes à chaque instant confondus de la justesse de, je ne dirais pas son observation, mais de ce qu'il a retenu de ses lectures. C'était vraiment l'essentiel, me semble-t-il, ce qui était significatif, ce qui avait une portée.
Et cela fait plaisir à entendre dire, précisément, parce que cela assure que l'homme naturel de Rousseau, ce que Rousseau appelle l'homme naturel, est après tout celui que peut-être vous avez rencontré, n'est-ce pas ? Et alors toutes les hypothèses que Rousseau faisait se trouvent peut-être ainsi, d'une certaine manière, justifiées, s'il est vrai qu'il a construit sur cet homme naturel, tout de même. Par-delà le discours, après, par-delà et après le discours sur l'inégalité, le contrat social. Il faut bien. C'est-à-dire un livre qui, supposant l'existence d'une nature humaine, essaie de définir une société juste, il est assez réconfortant de penser qu'une pareille construction est d'accord avec l'effort des ethnographes d'aujourd'hui.
Mais en fait, c'est exactement notre effort, et après Rousseau, et très modestement, humblement, nous essayons de faire la même chose que lui, parce que toutes ces études de coutumes bizarres, ces descriptions d'objets extravagants, à quoi s'irait-elle, sinon précisément dans la mesure où elles nous permettent d'élargir la conception que nous pouvons nous faire de la nature humaine sur la base exclusive de la considération de notre propre société.
Il y aurait pourtant une tentation de la part de l'ethnographe de prendre l'individu humain par l'extérieur, de le définir en rapport avec une situation du clan, avec certains rapports économiques à l'intérieur du groupe, et qui tendrait précisément à éliminer cette notion de nature humaine sur laquelle Claude Lévi-Strauss insiste depuis quelques instants.
Mais Michel Léris. Je pense qu'il faut commencer par cette description extérieure. Parce qu'il n'y a aucune espèce de moyen de faire autrement, mais l'ethnographe ne peut absolument pas s'en tenir là. Il lui faut, à tout prix, essayer de revivre, plus modestement peut-être reconstruire, les expériences, l'expérience interne des gens qu'il étudie.
Il m'est arrivé pour ma part, je ne suis pas du tout un ethnographe, mais il m'est arrivé de faire de grands voyages et d'être saisi par l'absurdité des spectacles devant lesquels je me trouvais. Mais je n'ai jamais cessé de faire réflexion que si, après tout, j'avais été capable, et j'imagine que c'est toute la science de l'ethnographe, d'analyser ce qui me paraissait absurde, j'aurais vraisemblablement retrouvé une raison, ma raison même, la raison d'un Européen.
Mais oui, permettez-moi de vous donner un exemple à ce sujet. Je travaille actuellement sur ce qui paraît le plus absurde de toutes les manifestations de la pensée primitive, c'est-à-dire sur les mythes. Cet énorme désordre, ce chaos d'événements incohérents, parfois grotesques, parfois répugnants. Eh bien, pour arriver à formuler la grammaire de cette mythologie, je suis obligé de faire constamment appel à de jeunes mathématiciens d'avant-garde, et nous nous apercevons que les outils qui permettent de donner un sens à ce désordre apparent, ce sont ceux que notre pensée rationnelle d'homme occidental et moderne a découvert seulement au cours de ces toutes dernières années.
Et supposons par exemple que cet ethnographe, appartenant lui à une culture tout à fait différente de la nôtre, cet ethnographe exotique dont je parlais tout à l'heure, vienne en France. Il est évident qu'une quantité de nos coutumes, une quantité des scènes, des cérémonies auxquelles il assisterait, lui paraîtrait d'une totale absurdité, tant qu'il n'en aurait pas trouvé la clé.
Je crois que nous pourrions à peu près résumer ce débat en disant que l'ethnographie, telle qu'elle se développe en ce moment, peut être définie comme une base de culture sur les différentes formes du comportement humain et sans aucune espèce de sélection de l'un ou l'autre de ces comportements, de l'une ou l'autre de ces cultures.
L'ethnographie n'est après tout qu'une extension des méthodes humanistes, et puis voilà tout.
C'est un humanisme démocratique, je dirais. C'est-à-dire qu'il ne considère aucune manifestation de la culture humaine et donc de l'humanité comme quelque chose d'indigne ou d'inférieur.